Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
À 6h45, il est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec au sommaire aujourd'hui les élections en Inde.
C'est ça, deuxième semaine de vote, il y en aura 7 avec des tensions dans les bureaux de vote au Cachemire pour ces plus grandes élections démocratiques au monde. 3 nouveautés, 84 millions de jeunes en plus à séduire, une vraie incertitude sur le succès de Narendra Modi et du parti BJP au pouvoir majoritaire, et puis un climat électoral, donc on le voit plus tendu, de l'espoir à la peur, disait le Washington Post, et on en parle avec vous, Charlotte Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin, vous êtes directrice du programme Asie du Sud du collectif de chercheurs Noria, spécialité des minorités musulmanes en Inde, auteur de Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Alors là, on voit qu'il y a eu des tirs à balles réelles à Srinagar, la capitale du Cachemire, avec une certaine tension ambiante dans le pays liée aux hindouistes extrémistes ces derniers mois. Dimanche dernier, ce sont 4 leaders politiques qui ont été suspendus pour 3 jours par la commission électorale pour des propos portés de division entre musulmans et hindous. Clairement, on est dans un climat beaucoup plus tendu qu'en 2014 cette année.
Oui, c'est-à-dire qu'en 2014, en fait, la campagne de Narendra Modi et du BJP a beaucoup plus été axée sur les promesses économiques pour lesquelles ils s'engageaient auprès de différentes sections de la population, étant donné qu'il y avait aussi un volet plus communautaire, mais qui était, en fait, ces discours étaient pris en charge par Amit Shah, qui est depuis devenu le président du BJP, mais ces discours étaient quand même plutôt en toile de fond, en fait, de la campagne, et pas du tout sur le devant de la scène comme c'est à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a 2 types de tensions. Il y a effectivement les tensions identitaire que, enfin, sur les récits identitaires auxquels vous faites allusion, c'est-à-dire notamment la promotion d'une Inde strictement hindoue, au sein de laquelle les minorités musulmanes et également chrétiennes sont discriminées et invitées à se convertir à l'hindouisme ou à quitter le pays. Et d'autre part, il y a également aussi des tensions très fortes d'affrontement entre personnes, puisque Narendra Modi personnifiant beaucoup la campagne autour de son personnage, ayant aussi de toute façon énormément personnifié depuis 5 ans, le gouvernement indien est représenté uniquement par Narendra Modi, quitte à éclipser en fait ses ministres et tout son gouvernement. Donc de fait, c'est une personnalité clivante qui donne lieu à des passes d'armes et à des attaques très très violentes. Par exemple, il y a une campagne, Narendra Modi se présente comme le Chowkidar, c'est-à-dire le gardien de l'Inde. Et là, il y a la commission électorale vient de mettre son veto à une campagne qui a lieu dans le Madhya Pradesh, qui est menée par le parti du Congrès, donc le parti d'opposition, et qui dit que le Chowkidar est un chor, donc c'est-à-dire le gardien est un voleur. Donc il y a vraiment des attaques ad hominem à cet égard, et les 4 responsables auxquels vous avez fait allusion ont aussi été suspendus à cause des attaques qu'ils menaient ad hominem contre Narendra Modi.
Ad hominem et aussi contre la minorité musulmane, hein, 14% de la population. Il y a cette figure, le fameux Yogi Adityanath en Uttar Pradesh, qui est le ministre en chef de cet état, également une figure religieuse qui a eu des propos très virulents. Il parlait de virus vert concernant la religion musulmane. Donc là, on est en Uttar Pradesh, c'est un bastion BJP au nord, alors que le parti de Narendra Modi a perdu justement 3 états-majors dans ce nord de l'Inde l'année dernière et un au sud. Est-ce que selon vous, il faut y voir un durcissement du discours communautaire corrélatif de ce repli électoral ?
Oui, alors c'est-à-dire que le Yogi Adityanath, au-delà de ses discours, c'est surtout qu'il a même créé un groupe de vigilants religieux hindous qui vont attaquer les minorités, notamment la minorité musulmane consommatrice ou censée consommer de la viande de bœuf. Donc on est même au-delà du discours, on est complètement dans des attaques physiques. Lui, c'est vraiment la figure la plus clivante et la plus radicale en fait, qui a été mise au pouvoir par le BJP lorsqu'il a remporté l'Uttar Pradesh. Alors il y a 2 choses en fait à dire. Il y a d'une part le fait que effectivement le BJP en fait, enfin, le gouvernement de Narendra Modi n'ayant pas rempli du tout les promesses économiques qu'il avait engagées en 2014 et créant vraiment des très très fortes insatisfactions auprès de son électorat qui s'est déplacé pour lui en 2014, auprès des paysans, des basses castes, également des chefs d'entreprise moyennes et supérieures qui en fait bénéficient beaucoup moins de retombées économiques positives que ce qui leur avait été promis. Donc pour éclipser ça, effectivement, on remet en exergue en fait le discours identitaire identitaire. Et pour le caricaturer à grands traits, on explique que le problème, c'est pas l'économique, c'est le musulman, en gros. Donc, pour essayer de resserrer l'électorat. Dans le cas de l'Uttar Pradesh, quand même, qui, pour le rappeler, est l'État le plus peuplé de l'Inde, et donc l'État qui envoie le plus de députés à l'Assemblée basse, donc la Lok Sabha, celle pour laquelle on vote en ce moment en Inde, et qui est donc plus peuplé que l'Union européenne, hein, quand même. Alors, oui. C'est juste un des États indiens.
220 millions d'habitants, je crois. Oui.
Voilà, un peu plus même. Et cet État, en fait, qui est le cœur de ce qu'on appelle la Hindi Belt, donc le cœur hindiphone du pays, et qui était acquis au BJP. Et là, en fait, on sent que la campagne, en fait, a vu s'allier deux partis très importants, un parti de caste intermédiaire et un parti de basse caste, qui se sont alliés pour faire opposition à Narendra Modi, enfin au BJP. Donc les alliances sont un petit peu bouleversées. Et du coup, de fait, le BJP accentue encore plus sa campagne identitaire. Mais ce qui se passe en Uttar Pradesh n'est pas réplicable dans tout le pays, notamment pas en Inde du Sud, dont on parle trop peu, alors que ce sont vraiment des États qui sont aussi des enjeux électoraux.
Oui, avec même le Karnataka en Inde du Sud, qui a changé de main également l'année dernière, perdu par le BJP. Justement, si on parle un peu du principal opposant, le parti du Congrès de Rahul Gandhi, il y a eu une forte campagne de décrédibilisation mutuelle. Gandhi accuse Modi d'être un voleur, de manquer de transparence sur la transaction sur les Rafales. Le BJP réplique en accusant Gandhi d'être un prince parachuté en politique. Alors, quels atouts ont les deux et ces partis pour sortir du tête-à-tête et surtout séduire les classes populaires? Est-ce que c'est les qualités de tribun de Modi ou le programme social du parti du Congrès qui vont suffire?
Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire que Rahul Gandhi est taxé en fait d'être l'héritier, la dynastie Gandhi en fait, et de se donner juste la peine de naître. Pour préciser, et alors le Congrès, on oublie souvent quand même de mentionner, parce que le Congrès et le BJP sont les deux partis qui sont connus en dehors de l'Inde au niveau national, mais il y a surtout une très très forte importance des partis régionaux. Quand on dit régionaux, quand on parle de partis régionaux pour l'Uttar Pradesh, comme je disais, c'est un État qui est plus peuplé que l'Union européenne, donc on parle de très très gros partis régionaux, et ce sont ces alliances aussi qui sont très importantes, et qui détermineront aussi, d'ailleurs, une fois les résultats, il va y avoir ces jeux de coalition qui vont se mettre en place, et on verra aussi après les résultats. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les résultats ne donneront pas forcément une image figée et fixe et définitive de ce que sera le gouvernement indien après, notamment à cause de ces jeux d'alliance. Et effectivement, ce sont deux registres qui s'affrontent, un qui est beaucoup plus personnalisé autour de Narendra Modi, comme on le disait, qui, encore une fois, se présente comme le gardien de l'Inde, le défenseur, dont le programme politique, un programme de campagne extrêmement axé sur la sécurité, ce qui fait écho en fait aux attaques qui ont eu lieu en début d'année, en février, sur une base militaire indienne. Donc on a d'un côté cet aspect sécuritaire identitaire hindou, et d'autre part sur le parti du Congrès, essaye beaucoup plus de développer l'agenda économique, les réformes économiques. Le parti du Congrès a été conseillé par Thomas Piketty, il propose par exemple le revenu minimum, donc on est vraiment sur des choses économiques plus profondes et essaye de ne pas trop rentrer dans les débats identitaires, alors à double titre, c'est-à-dire de ne pas projeter une Inde hindou, ça c'est une certitude, ce n'est pas son cœur idéologique, mais d'autre part non plus à défendre plus mollement les minorités musulmanes et chrétiennes lorsqu'elles sont attaquées. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Et pour dire un mot également des États du Sud, j'ai écouté un collègue indien il y a quelques jours qui disait qu'il fallait pas oublier qu'en 2014, ce n'est pas tant le BJP qui a gagné l'Inde du Nord, c'est-à-dire la Hindi Belt à laquelle je faisais référence tout à l'heure, mais surtout le parti du Congrès qui a perdu les États du Sud. Donc il y a vraiment cette porte sur le Sud qui est très très importante, et c'est d'ailleurs pourquoi on a parlé de vraie défaite pour Narendra Modi quand le BJP n'a pas été capable de former ce gouvernement en Karnataka, comme vous y faisiez allusion tout à l'heure.
Oui, justement, avec ce parti du Congrès qui avait subi une défaite très cuisante en 2014, en passant de 262 sièges à 59 à la Lok Sabha, de la même manière qu'on pourrait dire le BJP lui avait eu une ascension assez fulgurante à ce moment-là. Vous parliez des partis régionaux, justement, il y a ce scrutin dans l'Uttar Pradesh avec, pour le coup, quelques projections dans lesquelles, si le Congrès forme une coalition avec un candidat unique et les partis régionaux, le BJP serait laminé, il passerait de 75 à 5 députés à envoyer à la Lok Sabha. Est-ce que c'est un scénario généralisable au niveau national en Inde ?
En fait, hélas, non. Enfin, je dis hélas, mais parce que c'est pas pour une question d'affiliation, mais au sens où, effectivement, en fait, on s'aperçoit que le parti du Congrès a été très regardant sur la modalité d'alliance avec ces partis, alors régionaux, mais également le Parti communiste, qui est un parti à l'échelle nationale, mais qui a des incarnations régionales plus ou moins fortes, et a été donc vraiment très précautionneux dans le fait de nouer des alliances, notamment avec le Parti communiste. Donc, un des leaders s'en est un peu ému. Et en fait, ce qui peut poser problème, c'est que justement, on se retrouve avec beaucoup de triangulaire. Or, le scrutin étant un tour, ce sera vite réglé. Mais voilà, cette alliance avec les partis régionaux peut être à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils s'allient, alors là, a priori, et d'après les projections, et étant entendu que je n'ai pas de boule de cristal, mais d'après les projections, effectivement, ce sera un coup très très dur pour le parti, le BJP. En revanche, dans les cas où les alliances sont plus compliquées et pourraient peut-être se faire éventuellement après les résultats, mais il faut d'abord gagner les élections, là, du coup, ça risque de desservir, en fait, les partis, entre guillemets, de gauche ou en tout cas du centre. Puisque, du coup, il y aura un éclatement de ces voix entre deux, enfin, le Congrès et son futur ou pas partenaire face au BJP.
Merci beaucoup, Charlotte Thomas, directrice du programme Asie du Sud, du collectif Chercheurs Noria. Puis on verra sur le site à votre article concernant le Cachemire, cet allié involontaire de Narendra Modi. Bonne journée.